Bonjour, Nathalie De Brock. Ces femmes qui sont allées au bout de leurs rêves. Des parcours atypiques, des basculements de vie qui nous démontrent qu'au féminin, tout est possible. Aujourd'hui,
Agnès Sanders.
Bonjour Agnès. Vous êtes médecin généraliste. Vous avez longtemps exercé votre métier en région parisienne. Et puis, en septembre 1991, on revient un petit peu en arrière, vous partez à Beyrouth pour le mariage d'amis. Mais alors, au-delà de ce moment de joie de mariage, vous allez faire deux découvertes majeures, les bidonvilles, et puis une jeune femme suisse qui s'occupe d'enfants. Et vous ne le savez pas encore à l'époque, mais votre vie va changer.
Oui, tout à fait. J'ai découvert effectivement cette amie suisse, enfin qui est devenue une amie, qui s'appelle Myriam et qui est une enseignante qui a des racines au Moyen-Orient par son papa et qui était venue pour apprendre l'arabe et enseigner auprès d'enfants de familles plutôt défavorisées dans Beyrouth. C'est à ce moment-là qu'elle m'a parlé de son rêve, de son désir de travailler parmi les plus pauvres des pauvres. Vraiment, là, j'ai eu vraiment un déclic dans ce qu'elle m'a raconté et puis aussi par tout l'environnement des personnes qui étaient là, qui avaient à cœur vraiment de reconstruire humainement le Liban qui avait été tellement éprouvé pendant près de 15 ans par la guerre civile. Il commençait à y avoir une reconstruction de bâtiments, mais vraiment mes amis avaient à cœur d'être acteurs dans la reconstruction humaine et c'est quelque chose qui m'a vraiment intéressée et j'étais venue en fait pour l'adoption d'un enfant et je suis revenue avec ce rêve de venir travailler à long terme à Beyrouth.
Mais comment on décide de tout quitter pour partir au Liban ?
Alors, je pense qu'il y a un brin de folie là-dedans, bien sûr. Alors, mon mari a des origines libanaises par sa maman. Il ne connaissait en gros que quelques injures que sa maman connaissait en arabe. C'était à peu près tout. On avait aussi aidé un jeune couple de Libanais qui s'était réfugié comme beaucoup de Libanais en France pendant la guerre civile et que nous avions appris à bien connaître. Et qui m'avait donc invitée à leur mariage, et c'est comme ça que j'ai connu le Liban pour la première fois. Donc on avait quand même un intérêt déjà pour ce pays qui avait tant souffert. C'était aussi, je pense, pas étranger au fait que nous avions nous-mêmes lutté pour la vie de notre fille Anne, qui a vécu sa première année en réanimation à l'hôpital Necker avec des malformations cardio-pulmonaires. Et donc le fait qu'elle ait été sauvée par une médecine accessible, ça m'a fait penser à ces gens qui n'ont pas ce bonheur d'être dans un endroit où leurs enfants peuvent ainsi être sauvés par la médecine locale.
C'est pour ça que vous avez voulu mettre en place une association.
Alors, c'était même pas une association du tout au début. On a découvert qu'il y avait des gens très très pauvres de différents arrière-plans, palestiniens, syriens, beaucoup de gitans, des Libanais déplacés par les conflits avec Israël au sud du Liban, qui étaient regroupés dans une région vraiment ceinture de misère de Beyrouth. Donc entre 93 et 97, c'était vraiment des prémices, c'est-à-dire qu'on a commencé à visiter régulièrement les gens qui habitaient dans ce bidonville. On n'avait absolument pas de lieu où déposer nos affaires. C'était du porte-à-porte humanitaire dans un bidonville, en fait, pendant plusieurs années. On a été happé un peu par l'idée de ce qu'on pourrait y faire si on restait à plus long terme. On a commencé cette association, d'abord Tahat des France comme soutien, puis c'est beaucoup plus compliqué au Liban, on a créé une association reconnue par les autorités libanaises, mais ça n'a été reconnu qu'en 2008, donc ça a pris beaucoup plus de temps.
Quelle est l'action de cette association alors ?
Alors donc notre objectif c'est de faire face avec les habitants du quartier aux grands défis de la très grande pauvreté. Donc l'idée c'est que ce sont eux qui font face à ces défis-là et non pas seulement nous bien sûr et que nous on veut être à leur côté pour les aider à y faire face, essayer de faire sortir de la grande misère des personnes qui parfois n'ont pas d'identité légale, qui sont des gens apatrides ou des gitans. Bon, depuis 2011, beaucoup de réfugiés syriens. Il y a aussi des habitants palestiniens dans cet endroit. Et donc, l'objectif, c'est de les aider à travers l'éducation et les soins médicaux, et aussi une action plus tard qui est devenue beaucoup plus psychosociale, à sortir de cette misère. Ce qu'on voit, c'est que maintenant, les enfants qui sont sur ce bidonville ont l'opportunité d'être scolarisés dans nos centres. Alors, ce sont des centres éducatifs et non pas une école à strictement parler, puisque nous n'avons pas l'accréditation du gouvernement pour différentes raisons, notamment parce que les enfants que nous prenons sont souvent des enfants sans papier et qui ne peuvent pas donc être dans une école du gouvernement ni dans une école privée. Ils ne peuvent être que dans un centre éducatif qui dépend d'une ONG. Puis on a aussi une branche médicale pour aussi les gens qui n'ont pas accès aux soins.
Alors maintenant, vous avez quitté le Liban. Pourquoi est-ce que vous êtes partie ?
Alors, nous sommes partis en 2009. C'était quelque chose que nous avions prévu depuis longtemps. Nous avons 3 enfants qui ont tous les 3 fréquenté, les uns un peu et la dernière beaucoup, le lycée français de Beyrouth. Et donc, Lucille, que nous avons adoptée au Liban quand elle était bébé, elle a fait toute cette scolarité au lycée français de Beyrouth. Et on avait pensé que quand elle lancerait à faire ses études supérieures, on l'accompagnerait en France, puisque née au Liban, elle n'avait jamais vraiment vécu en France autre que des vacances familiales pendant l'été avec nous, et que on ne se sentait pas de la lâcher toute seule en France. Et nos 2 aînés, donc, qui ont 10 ans et 12 ans de plus qu'elle, étaient déjà installés aussi en France. Et moi-même, donc, j'avais le défi de pouvoir trouver quelqu'un pour me remplacer. Ça n'a pas été facile, et la transmission est compliquée parce qu'on travaille dans un bidonville, dans un endroit à 100% musulmans, très hétérogène, avec à la fois des Palestiniens et des Syriens qui sont essentiellement sunnites, mais autrement c'était une région plutôt peuplée de déplacés du sud qui sont chiites et qui eux sont vraiment contrôlés ou encouragés, protégés, comme on veut dire, par les mouvements Hamas et Hezbollah. Donc il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de tensions dans ces quartiers-là, et trouver des gens qui sont d'accord pour aller travailler là, c'est difficile. D'autre part, nous, on était quand même aussi motivés par notre foi chrétienne et le fait de répondre à l'enseignement de Jésus, d'aider notre prochain. Et donc, même si nos équipiers représentent la diversité du Liban, c'est-à-dire à peu près un tiers chrétien, un tiers sunnite, un tiers chiite, hein, dans les équipiers de Tardé, toutefois, le moteur de l'action vient quand même de l'enseignement de Jésus d'aller voir son prochain, et donc pourrait attirer certains chrétiens libanais, mais pas dans ces quartiers-là. C'était très difficile pour eux d'aller dans ces quartiers-là. C'était vraiment considéré comme un endroit très dangereux, et où nous, en tant qu'étrangers, on était un peu comme des extraterrestres, donc un peu acceptés. Mais
alors, Tahadé existe toujours?
Oui, Tahadé, ça veut dire le défi en arabe. Alors, le défi est toujours là. Il est là plus que jamais, puisque en ce moment, le Liban va particulièrement mal. Il a subi crise sur crise en 2020, donc crise économique, crise sociale, crise politique, crise sanitaire avec Covid, une grande explosion qui a détruit le tiers de la ville le 4 août, une crise financière maintenant avec les banques qui font faillite. Et donc, Tahadé, parmi d'autres ONG, ce sont les ONG en ce moment qui font vivre le Liban, en fait. C'est difficile, alors je ne dis pas que c'est plus difficile que si j'y étais, mais c'est vrai que c'est une autre façon de voir les choses. Je suis ça de très près, hein. Je lis les nouvelles du Liban dans le journal libanais tous les jours. Je m'occupe d'essayer de trouver des fonds suffisamment pour pouvoir les aider, parce que maintenant on fait non seulement du travail de développement, qui est normalement le cœur de ce qu'on veut faire, c'est-à-dire de l'éducation, de la prévention, mais maintenant nous sommes vraiment amenés à faire de plus en plus de l'urgence. Et donc ça, c'est de l'aide d'urgence, donc des bons alimentaires pour que les gens ne meurent pas de faim, pour que les enfants ne soient pas obligés de mendier sur la route, pour qu'on puisse les garder dans l'école.
Alors quand on est ici, vous vivez comment ?
Je le vis mieux si je peux faire quelque chose. Si je ne pouvais vraiment rien faire, je pense que ce serait désespérant. Là, je me démène justement en essayant de diffuser mon livre pour que ce soit connu, pour que des gens adhèrent à Tahat des France, pour que les recettes de la vente du livre puissent aider à envoyer là-bas. Il y a une sensation d'urgence, peut-être encore plus que jamais.